Aujourd'hui, dans Guerre et pluie, il évoque son propre parcours. Cette vie qui, dit-il, lui a donné la chance d'échanger la fin du communisme pour le crépuscule du capitalisme. Page 40, il précise « Le mieux que je puisse faire est de noter mes souvenirs et les écrire est déjà le premier pas vers leur compréhension. »
Dans ce roman « Guerre et pluie », aujourd'hui, ou enfin il y a quelques années à Bruxelles, pendant le Covid, la guerre dans la peau, d'une certaine manière, votre peau somatise des souvenirs liés à la guerre. Et puis ensuite, on se retrouve, grâce à vous, en 92 dans les tranchées. Et alors, expliquez-nous quand même, parce que vous êtes enrôlé en 92, vous avez 28 ans, vous arrivez à la guerre, vous avez une Kalachnikov que vous portez comme une guitare, c'est ce que vous écrivez. Vous avez un petit carnet de notes qui est ici, qui vous accompagnera pendant ces 5 mois dans les tranchées, au milieu du vomi, des diarrhées, des viscères de ceux qui meurent. Et vous avez une photo d'une poétesse américaine du 19e siècle, Emily Dickinson. Quel étrange barda, Félix Borcholitch.
Oui. Il faut dire que si j'ai une excuse pour tout ça, c'est que c'est pas moi qui étais à la guerre, c'est la guerre qui est venue chez moi. C'est quelque chose. La guerre, c'est quelque chose d'énorme. Oui. On peut pas imaginer. On peut imaginer tout. On peut imaginer tout et n'importe quoi, mais on ne peut pas imaginer ouvrir la fenêtre chez nous et voir les tanks et voir la destruction. Donc j'étais une sorte de brave soldat Schweik. Parfois j'ai dit maintenant avec distance, j'étais Jacques Tati dans la tranchée, Monsieur Hulot, et je me demande, jour après jour, année après année, comment j'ai survécu de
comment
tout ça.
Comment vous avez réussi à survivre physiquement et même spirituellement, moralement, la guerre étant vous. Vous dites à un moment donné, vous êtes ivre mort quasiment dans une tranchée avec votre petit carnet et vous dites, je me demande quelles sont statistiquement mes chances de survivre. 20% de survivre physiquement, 100% de chances de ne pas en rééchapper. C'est moralement de ne pas en rééchapper. Vous êtes marqué à jamais ?
Miraculé, je dis toujours, la preuve ultime que les soldats professionnels sont nuls, c'est ma tête. Avec tous les snipers, avec tous les outils.
Ils ont vous voulez dire grosse tête ?
Ils ont ma tête à leur disposition, ils ont raté ma tête. Il faut dire que la guerre est quelque chose de tout sauf la littérature. Oui. Si on compare mes notes dans le tranché, je faisais un acte le plus subversif possible, écrire. D'ailleurs, il y avait deux, trois choses à éviter pour chaque soldat, et j'avais 2 sur 3. Les 2 choses, c'est d'abord, j'étais le philosophe dans la tranchée, oui. C'est monstrueusement dangereux.
Le pitre.
Oui. Et le gaucho.
Et le gauchiste.
Gauchiste, ça veut dire, on est dans la guerre, on ressort les drapeaux, et toute la mise en scène des croisades et des choses.
Et c'est ce qui vous fait écrire à un moment donné, nous nous battons toujours à fond jusqu'à la dernière goutte du sang des autres. En guerre et pluie, vous voulez provoquer une catastrophe, c'est simple, vous armez les cons. Alors évidemment, on va se demander avec vous et avec Anna ce que vous pensez, pas forcément de la guerre en Ukraine, mais de manière plus précise de la désertion, des désertions qui se multiplient des soldats ukrainiens.
Oui, fini l'élan patriotique des premiers mois. Les hommes mobilisables, c'est-à-dire qui ont entre 18 et 60 ans, ainsi que les soldats ukrainiens, sont de plus en plus réticents à partir faire la guerre. Ils ont peur de mourir ou de devenir handicapés. Et donc, certains veulent à tout prix quitter le pays par tous les moyens. Il y a un business de passeurs de frontières s'est même développé jusqu'à 3 500 € par tête pour arriver sain et sauf en Roumanie, en Moldavie ou en Pologne. Alors ces derniers mois, le gouvernement a intensifié la surveillance aux frontières pour empêcher ces départs. 150 passeurs et 20 000 déserteurs auraient déjà été arrêtés selon Kiev. Alors la semaine dernière, Volodymyr Zelensky a promulgué une loi qui prévoit jusqu'à 12 ans de prison pour les déserteurs et 10 ans pour ceux qui désobéissent ou refusent de combattre. Vili Borcholitch, vous pensez vraiment qu'on peut forcer quelqu'un à partir faire la guerre ?
Chaque fois qu'on force quelqu'un à faire la guerre ou à faire quoi que ce soit, ça finit en vinaigre. Le patriotisme, le drapeau et tout ça, ça dure très très court. J'ai vu que dans le tranché, les patriotes meurent d'abord. Je trouve ça honnête, parce que c'est eux qui sont commencés. J'avais peu de chance de croiser le vrai patriote, mais il y en a, et c'est les gens qui... La plupart de soldats étaient comme moi. C'est les gens qui pensaient à sauver leur vie. Je pense, et c'est très important, « Guerre et pluie », c'est un livre sur la défaite. Je dis toujours... Quand on perd la paix, on a la guerre. Et si on perd la guerre, on n'a pas la paix, on a la défaite.
Merci.
En Yougoslavie, juste pour dire, en Yougoslavie, on brandisse les drapeaux depuis 30 ans. Si vous allez en ex-Yougoslavie, de Slovénie jusqu'à la Macédoine, Monténégro, comme ça, tout le monde, je signe, encore une fois, je répète, tout le monde a gagné la guerre. En fait, c'est une énorme, énorme défaite de tout. Chaque guerre sur cette terre, c'est défait de nous tous.
Merci, Velibor Čolić.